Chapitre 11. Quelque chose que pût faire Richelieu, la reine n'avait été que médiocrement compromise dans cette affaire. Il fallait lui en susciter une autre. Nous avons dit combien le cardinal était un habile limier une fois lâché sur ces sortes de pistes. Il regarda tout autour de lui et son regard sinistre tomba sur Henri de Talleyrand, comte de Chalais. C'était un beau jeune homme de 28 à 30 ans, fort élégant, fort couru, peu réfléchi, très railleur, imprudent et vain, brave à l'excès. Un de ces duels avait fait grand bruit. Ayant eu à se plaindre dans une affaire d'amour de M. de Pontgibaud et l'ayant rencontré sur le pont Neuf qui revenait de la campagne à cheval et en grosses bottes, il l'invita à mettre pied à terre et à lui donner satisfaction sur le lieu même. Pontgibaud, qui était aussi brave que Chalais, descendit à l'instant et, à la troisième passe, tomba raide mort. La naissance de Chalais était excellente. Petit-fils du maréchal de Montluc, il touchait par les femmes à cette brave race des Bussy. Vous rappelez-vous, cher lecteur, le Bussy de la Dame de Montsoreau? Chalais appartenait au roi, et comme tous ceux qui appartenaient au roi, il avait honte de l'esclavage où le tenait le cardinal. Un mot du vieil archevêque Bertrand de Chaux peint à merveille la mesure de la puissance que Richelieu laissait au roi. Louis XIII lui avait promis plus d'une fois le chapeau rouge et mourut sans le lui donner. « Ah !» disait le vieil archevêque, ne lui faisant pas autrement reproche de son manque de parole, « si le roi était en faveur, je serais cardinal. » Chalais était du parti de l'aversion. On appelait ceux qui détestaient le cardinal les aversionnaires. Gaston avait crié bien haut contre l'arrestation du maréchal d'Ornano. Nous avons même dit dans quels termes il avait crié. Il demandait à qui voulait l'entendre de conspirer avec lui contre le cardinal, et comme on ne connaissait pas encore Richelieu pour si terrible qu'il fût par la suite, on répondait assez à l'appel. Ceux qui y répondirent les premiers furent les deux frères naturels du roi, et par conséquent, de monsieur, les deux bâtards de Henri IV, Alexandre de Bourbon, grand prieur de France, et César, duc de Vendôme. Ils proposèrent un plan à Gaston et y entraînèrent Chalais. On devait assassiner le cardinal, et voici de quelle façon. Richelieu, sous le voile éternel de la mauvaise santé, voile qui lui servit à cacher tant de choses, s'était retiré à sa campagne de Fleury. De là, le malade imaginait les affaires du royaume. Le duc d'Anjou et ses amis devaient faire une chasse. La chasse devait les conduire du côté de Fleury. Là, comme s'ils étaient fatigués, ils devaient demander l'hospitalité au cardinal, et cette hospitalité accordée, saisir le premier moment favorable, envelopper son éminence, puis enfin lui couper la gorge. Si ces complots paraissent étranges aujourd'hui, nous dirons qu'alors ils avaient des antécédents. C'est ainsi que Visconti avait été assassiné dans la cathédrale de Milan, Julien de Médicis dans le cœur de Sainte-Marie-des-Fleurs à Florence, Henri III à Saint-Germain, Henri IV rue de la Ferronnerie et le maréchal d'Ancre sur le pont du Louvre. Gaston, en se défaisant du cardinal, ne faisait donc que suivre l'exemple de son frère, se défaisant du maréchal d'Ancre. Il avait de plus cet avantage que Louis XIII haïssait au fond son favori et que, ce favori mort, le roi se réjouirait de cette mort avec les meurtriers. Chalais, nous l'avons dit, était du complot. Mais soit faiblesse de résolution, soit, ce qui est plus probable, qu'il voulut l'attirer dans le complot, Chalais s'en ouvrit un jour au commandeur de Valençay. Le commandeur de Valençay, homme raisonnable et qui avait mesuré la puissance du cardinal sur la faiblesse du roi, au lieu de céder au raisonnement de Chalais, le fit plier sous les siens et finit par le conduire chez le cardinal. Ce fut le commandeur de Valençay qui parla. Chalais se tut. Il ne faisait au reste qu'une condition à la révélation, l'impunité des coupables. Or, ces coupables, quels étaient-ils ? Le frère légitime et les deux frères naturels du roi. Le cardinal promit de ne point sévir. Il n'était pas encore de force à faire tomber trois têtes royales, et il savait que, lorsqu'on touche à ces têtes-là, il faut qu'elles tombent. Le cardinal remercia Chalais et l'invita à le revenir voir en particulier. Puis il alla trouver le roi, lui raconta tout, en demandant son indulgence pour un complot qui ne menaçait que lui, Richelieu. Le cardinal, disait-il, gardait toute sa sévérité pour les complots qui menaceraient le roi. Il posait sur cette feinte magnanimité la première planche de ses échafauds à venir. Mais le roi lui demanda ce qu'il comptait faire en cette circonstance. « Sire, répondit le cardinal, laissez-moi mener l'affaire jusqu'au bout. Seulement, comme je n'ai autour de moi ni garde ni cavalier, prêtez-moi quelqu'un de vos gendarmes. » Le roi lui prêta 60 cavaliers. Ces 60 cavaliers arrivèrent à Fleury la veille du jour où l'assassinat devait avoir lieu. On les cacha dans les communs. La nuit s'écoula tranquillement. Le cardinal ne dormait point cependant et ruminait son projet. Le matin venu, il ne l'avait pas encore arrêté quand le chef du complot lui donna lui-même un moyen de sortir galamment d'embarras. Au point du jour, les officiers de la bouche du duc d'Anjou arrivèrent à Fleury. Ils annonçaient qu'au retour de la chasse, leur maître devait s'arrêter chez son éminence et, pour lui épargner tout ennui à lui et à ses gens, les envoyer préparer son dîner. Le cardinal répondit que lui et sa maison étaient au service du prince. Mais aussitôt, il sauta à bas de son lit, se fit habiller et partit pour Fontainebleau. Sa résolution était prise. Il arriva vers 7 heures du matin et au moment où monsieur, de son côté, se levait et s'habillait pour la chasse. Tout à coup, la porte de sa chambre à coucher s'ouvrit et l'on annonça au jeune prince et le cardinal de Richelieu. Avant que le valet de chambre de service eût eu le temps de répondre que son maître n'était pas visible, son éminence était dans la chambre. Le trouble avec lequel monsieur reçut l'illustre visiteur prouva à celui-ci que Chalais avait dit la vérité. Aussi, Gaston n'était point encore revenu de son étonnement quand le cardinal, s'approchant de lui, « En vérité, monseigneur, dit-il, j'avais raison d'être fâché contre vous. » Gaston était facile à effrayer. « Contre moi? Fâché? Vous ? » s'écria-t-il tout démonté. Pourquoi donc cela ? Mais parce que vous n'avez pas voulu me faire l'honneur de me commander à dîner à moi-même et que vous avez envoyé vos officiers de bouche. Circonstance qui m'indique que votre Altesse désire être en liberté chez moi. Je lui abandonne donc Fleury afin qu'elle en dispose à son plaisir. » À ces mots, le cardinal, tenant à prouver au duc d'Anjou qu'il était son très humble serviteur, prit la chemise des mains du valet de chambre et, presque de force, la passa au prince. Après quoi il se retira en lui souhaitant bonne chasse. Gaston comprit que le complot avait été vanté, se plaignit d'une indisposition subite et se mit au lit. Il va sans dire que la chasse fut remise à un autre jour. Or, le cardinal, forcé de faire grâce cette fois, avait une terrible revanche à prendre. Abandonnant le complot qui lui était personnel, il s'occupa d'en créer un autre contre les mêmes conjurés. Il lui fallait un complot où fussent compris M. le grand prieur de France, le duc de Vendôme et même Chalais. Il avait gardé une dent contre le pauvre Chalais, l'illustre cardinal, et sa révélation n'avait pu lui faire pardonner sa complicité. Au reste, au milieu de cette cour brouillonne et tapageuse, les complots n'étaient pas difficiles à faire éclore. Voici celui que le cardinal pétrit de ses propres mains. Nous avons dit les difficultés que monsieur opposait à son mariage avec mademoiselle de Montpensier, fille de madame la duchesse de Guise. Or, Gaston résistait, non point que la future ne fût pas jeune, ne fût pas jolie, ne fût pas riche, elle était tout cela, mais parce qu'elle ne lui apportait aucune assistance pour ses projets ambitieux. Que fallait-il à un homme qui, toutes les nuits, essayait en rêve la couronne de France? L'appui d'un prince étranger chez lequel il put se réfugier si l'un de ses complots échouait. Il y avait donc à la cour un parti pour l'alliance étrangère. Ce parti, qui se rattachait à Gaston, était le parti de tous les mécontents, et Dieu sait ce qu'il y avait de mécontents à la cour de France. Le cardinal avait dirigé les yeux du roi sur cette manœuvre de son frère. Il lui avait fait comprendre le motif réel de cette répulsion contre son mariage avec mademoiselle de Montpensier. Il lui avait montré ses deux frères naturels, l'encourageant à cette résistance. Le roi était donc convaincu que le duc d'Anjou, pour le bien et la sécurité de la couronne, devait épouser mademoiselle de Montpensier. Et il finit par convenir avec le cardinal que ce serait bien heureux si l'on pouvait à la fois mettre la main sur le grand prieur et sur son frère. C'était quelque chose que d'avoir amené le roi à cet aveu. Mais ce n'était pas tout. Après avoir reconnu que ce serait bon de les arrêter, il fallait en arriver à les arrêter. Là gisait la difficulté. Tâchons de faire comprendre cela à nos lecteurs. On représente l'histoire avec un flambeau à la main. Mais elle tient d'habitude le flambeau si élevé qu'il n'éclaire que les hauts sommets. Plaines et vallons se perdent dans la demi-teinte de l'obscurité. À plus forte raison, les précipices. Et quelle époque, grand Dieu, est plus pleine de précipices que le règne de Louis XIII, ou plutôt du cardinal de Richelieu. Allumons donc notre lanterne au flambeau de l'histoire et descendons au plus profond de ces précipices. Nous sommes, si je m'en souviens, à la recherche de la difficulté qu'il y avait à mettre d'un seul coup la main sur les deux frères. Monsieur le grand prieur était bien à portée. Malheureusement, il n'en était pas ainsi du duc de Vendôme. Le duc de Vendôme était gouverneur de Bretagne, c'était déjà quelque chose d'être le chef d'un pareil gouvernement, mais ce n'était pas tout ce qu'était le duc de Vendôme. Par le fait de sa femme, héritière de la maison de Luxembourg, et par conséquent de la maison de Penthièvre, il avait de grandes prétentions à la souveraineté de cette province. De plus, il nouait, disait-on, un mariage entre son fils et l'aîné des filles du duc de Retz, qui avait deux places fortes dans la province. La Bretagne, ce fleuron toujours mal soudé à la couronne de France, pouvait donc s'en détacher à la voix du fils de Henri IV. Or, voici ce qui pouvait arriver, un mot d'ordre étant donné par la reine, monsieur et les deux bâtards royaux, en supposant que monsieur épousa quelque fille de prince du Saint-Empire. À la voix de la reine, l'Espagnol traversait la frontière. À la voix du duc d'Anjou, l'Empire marchait contre la France. À la voix du duc de Vendôme, la Bretagne se révoltait. L'arrestation des deux frères et le mariage de monsieur le duc d'Anjou déjouaient donc ce grand complot. Exista-t-il jamais ailleurs que dans l'esprit du cardinal? C'est ce que nous ne pourrions dire. Maintenant, suivons le travail patient de l'araignée à la toile de pourpre. Les ennemis du cardinal, voyant l'affaire de Fleury manquer et n'ayant pas été poursuivis, quoique Richelieu fût plus puissant que jamais, attribuaient au hasard l'avortement du complot. Le grand prieur, qui s'était momentanément éloigné de la cour, y reparut. Le duc de Vendôme, seul, resta prudemment dans sa province. La première fois que le cardinal revit le grand prieur, après 3 mois d'absence, il le reçut à bras ouverts. L'accueil paraissait si sincère et si franc que le bâtard royal se hasarda d'exprimer un désir qui, depuis longtemps, était l'objet de son ambition. C'était qu'on lui confiât la charge de grand amiral. « Si la chose ne dépendait que de moi, dit Richelieu, vous savez, monseigneur, qu'elle serait faite. » Le grand prieur s'inclina tout joyeux. « Mais, demanda-t-il, si l'obstacle ne vient point de votre éminence, de qui viendra-t-il ? » « Du roi, répondit le cardinal. Du roi ? Reprit le grand prieur étonné. Et quel grief le roi a-t-il contre moi ?
Aucun.
Eh bien, mais alors ?
Laissez-moi vous dire la vérité, monseigneur.
Dites, dites. C'est votre frère qui vous fait du tort.
Mon frère César ?
Oui, le roi se défie de lui.
À quel propos ?
Le roi pense, à tort je n'en doute pas, mais il pense ainsi, le roi pense qu'il écoute des gens mal intentionnés.
Que faire alors?
Effacer les mauvaises impressions que le roi a reçues contre votre frère, puis ensuite revenir à vous.
Votre éminence veut-elle que j'aille quérir mon frère dans son gouvernement et que je l'amène au roi pour le justifier?
Écoutez, dit le cardinal, et les choses s'arrangent à merveille pour que le roi ne puisse croire à quelque chose de préparé entre nous. D'ici à quelques jours, le roi compte aller se divertir à Blois. Partez pour la Bretagne, amenez à Blois M. de Vendôme. Nous lui aurons épargné la moitié du chemin, et la visite paraîtra toute naturelle.
Mais, dit le grand prieur, Votre éminence comprend qu'il me faudrait une assurance qu'il n'arrivera rien de fâcheux à mon frère. »
Quant à cette assurance, monseigneur, répondit humblement le premier ministre, c'est au roi à vous l'offrir et je suis certain qu'il ne vous la refusera pas.
Eh bien, immédiatement après avoir vu le roi, je pars.
Allez attendre chez vous l'ordre d'audience, monseigneur. Je vous promets que vous ne l'attendrez pas longtemps.
En effet, dès le lendemain, le grand prieur était reçu par le roi.
Louis XIII ne lui donna pas la peine de chercher une entrée en matière. Le premier, il entama la question du voyage de Blois, invitant aux chasses magnifiques qui allaient avoir lieu le grand prieur et son frère.
« Mais, hasarda le grand prieur, mon frère sait que le roi croit avoir des griefs contre lui. Peut-être aurais-je quelque peine à lui faire quitter son gouvernement. »«
Allons donc, dit Louis XIII, qu'il vienne en toute assurance, et je vous engage ma parole royale, qu'il ne lui sera point fait plus de mal qu'à vous. »
Le roi pouvait s'engager à cela, il comptait les faire arrêter tous deux.
Le grand prieur partit pour la Bretagne et le surlendemain, la cour partit pour Blois.
Sous prétexte que sa mauvaise santé l'obligeait à voyager à petite journée, le cardinal s'était mis en route dès la veille. Quoique parti 24 heures avant le roi, il n'arriva qu'un jour après lui et, trouvant la ville trop bruyante, se retira dans une charmante petite maison située à une lieue de la ville et appelée Beauregard.
Deux ou trois jours après l'installation du roi au château, le grand prieur et son frère arrivèrent à leur tour. Le même soir, ils étaient reçus par le roi, qui les invitait à la chasse du lendemain. Mais eux répondirent qu'ils remerciaient le roi et lui demandèrent un jour de repos. Ils venaient, pour présenter leurs hommages à sa majesté, de faire 80 lieues à Franquetrier. Le roi les embrassa tous deux et leur souhaita une bonne nuit.
À 3 heures du matin, pour ne point mentir à la promesse faite qu'il n'arriverait pas plus de mal à César de Vendôme qu'au grand prieur, le roi les faisait arrêter tous deux et acheminer sur Amboise. On comprend le bruit que fit l'arrestation des deux fils de Henri IV. Chalais l'a pris comme les autres. Il avait continué de voir le cardinal, et le cardinal continuant de lui faire bon accueil, il croyait, sur la promesse qu'il avait reçue, que tous ceux qui avaient participé à l'affaire de Fleury étaient sauvegardés par cette promesse.
Voyant le grand prieur et son frère arrêtés, il courut chez Richelieu et réclama le bénéfice de sa parole.
Le cardinal répondit que M. le grand prieur et M. de Vendôme n'étaient point arrêtés comme complices ou instigateurs du complot de Fleury, mais à cause de mauvais conseils qu'ils donnaient, l'un de vive voix, l'autre par lettre, à Monseigneur le duc d'Anjou.
Chalais se retira assez mécontent de cette réponse.
Aussi, après avoir réfléchi pendant quelque temps, il crut son honneur engagé à faire au cardinal une déclaration positive. Cette déclaration était qu'il retirait sa parole et priait le cardinal de ne plus compter sur lui. Seulement, la difficulté était de trouver quelqu'un qui portât un semblable avis au ministre. Deux ou trois, bien avisés du danger qu'ils couraient, refusèrent. Chalais prit le parti d'écrire et écrivit en effet. Presque aussitôt, il renoua avec Madame de Chevreuse, qui avait autrefois été sa maîtresse. C'était une déclaration de guerre bien autrement flagrante que la lettre qu'il avait écrite. Dès lors, il fut désigné dans l'esprit du cardinal comme le bouc expiatoire du premier complot qui aurait lieu. D'ailleurs, le cardinal se doutait bien que Chalais ne se tiendrait pas tranquille et qu'il allait se mettre immédiatement à intriguer. Il attendit. L'attente ne fut pas longue. M. d'Anjou, singulièrement effrayé de l'absence de ses deux frères, cherchait plus que jamais un lieu de refuge hors des frontières ou quelque place forte en France, derrière des murailles de laquelle il put tenir tête au cardinal et dicter ses conditions. Chalais s'offrit au jeune prince comme intermédiaire. La proposition fut acceptée. Chalais se mit à l'œuvre. Il écrivit à la fois au comte de Soissons qui tenait Paris, au marquis de Lavalette qui tenait Metz et au marquis de Lesques, favori de l'archiduc, à Bruxelles. Lavalette refusa, non point à cause du cardinal dont il avait à se plaindre comme toute la noblesse de France, mais parce que, Madame de Montpensier étant sa proche parente, il ne se souciait pas d'entrer dans une cabale qui rompait son mariage avec un fils de France. Le comte de Soissons accepta et, de plus, envoya au duc d'Anjou un homme à lui nommé Boyer, lequel lui offrit 500 000 écus, 8 000 hommes de pied et 500 chevaux, si le prince le voulait venir rejoindre à l'instant même à Paris. Quant au marquis de Lesques, on verra plus tard comment les choses se passèrent de son côté. Le même jour où le comte de Soissons envoyait Boyer au duc d'Anjou, Luvigny venait prier Chalais de lui servir de second. Roger de Gramont, comte de Louvigny, était frère de père et de mère du maréchal de Gramont. En sa qualité de cadet de famille, il n'avait pas le sou et se faisait, d'apparence du moins, plus pauvre encore qu'il n'était. C'était la gueuserie personnifiée et, généralement, on disait qu'il eût mieux fait d'aller sans chausses que de montrer celle qu'il portait. Il n'avait qu'une chemise et une fraise. Tous les matins, on les lui blanchissait et repassait. Une fois, monsieur l'envoya quérir. Monsieur était très pressé. « Ma foi, répondit Louvigny, monseigneur attendra. Ma chemise et ma fraise ne sont pas encore blanchies. » Une autre fois, il marchait en pleine boue, sans faire aucunement attention à l'endroit où il posait le pied. « Prenez garde, comte, lui dit-on, vous gâtez vos bas. »« Laissez faire, répondit Louvigny, ils ne sont pas à moi. » Tout cela n'eût rien été, mais Louvigny avait commis une lâcheté épouvantable. Se battant avec Aucuncourt, qui fut depuis maréchal de France et vivement pressé par lui, « Mes éperons me gênent, dit-il à son adversaire, ôtez les vôtres et laissez-moi ôter les miens. » Aucuncourt s'arrêta, prit son épée entre ses dents et se baissa pour déboucler la courroie. Alors, traîtreusement et par derrière, Louvigny lui avait passé son épée au travers du corps. Aucuncourt avait failli en crever et était resté 6 mois au lit. Au moment où il était au plus mal, son confesseur le supplia de pardonner à Louvigny, mais Aucuncourt lui en voulait trop pour ne pas prendre ses précautions. « Si je meurs, oui, dit-il, je lui pardonne, mais si j'en reviens, non. » C'était là un si fâcheux antécédent, il était si connu, il avait si souvent été reproché à Louvigny que, quand celui-ci vint demander à Chalais de lui servir de témoin, ou plutôt, comme on le disait plus correctement alors, de second, Chalais refusa. Le méchant garçon fut si piqué de ce refus, dit Bassompierre, qu'il s'en alla droit révéler au cardinal tout ce qu'il savait et tout ce qu'il ne savait pas. Or Louvigny, qui vivait avec Chalais comme un frère, savait à peu près tout. Louvigny raconta donc que Chalais avait écrit au marquis de Lavalette, au comte de Soissons et au marquis de Lesques. C'était la conspiration brabançonne qui allait le mieux au cardinal. Aussi fut-ce celle-là qu'il choisit. Une conspiration avec l'Espagne, peste, c'était cela qu'il cherchait depuis longtemps. On la lui apportait, elle était la bienvenue. En la conduisant avec adresse, on y faisait entrer le roi d'Espagne, et le roi d'Espagne était le frère d'Anne d'Autriche. Enfin, le cardinal tenait donc son complot. Il appela Rochefort son âme damnée. Le lecteur se le rappelle, nous l'espérons, nous en avons fait la cheville ouvrière de notre roman des mousquetaires. Rochefort reçut l'ordre de partir pour Bruxelles, déguisé en capucin. Le moine de contrebande emportait une lettre du père Joseph qu'il recommandait au couvent de Flandre. Cette lettre était signée du gardien du couvent des Capucins de la rue Saint-Honoré. Tout le monde devait ignorer son déguisement, il voyagerait à pied, sans argent, en véritable frère mendiant. Il rentrerait chez les Capucins de Bruxelles et se soumettrait à toute l'austérité de l'ordre. Là, il devait suivre de l'œil tous les mouvements du marquis de Lesques. Le marquis était ami du supérieur et familier du couvent. Rochefort avait un rôle bien simple à remplir. Ennemi du cardinal, il n'avait qu'à parler comme un écho, qu'à répéter le mal que l'on disait du prélat ministre. Il renchérit, inventa, broda. Il arrivait de Paris, on écouta ce qu'il disait. Rochefort était un homme habile, il joua son rôle de telle façon que tout le monde s'y laissa prendre, de Lesques tout le premier. Au bout de 15 jours, de Lesques, parfaitement convaincu, s'ouvrit aux faux moines. Il s'agissait de rentrer en France et de remettre à leur adresse des lettres de la plus haute importance. Rochefort commença par refuser. L'habit qu'il portait lui interdisait tout contact avec les choses temporelles. Delesque insista. Le faux moine eût bien voulu rendre service à un gentilhomme qui lui donnait tant de marques de bonté. Mais pour entrer en France, il lui fallait quitter le couvent, et comment quitter le couvent sans la permission du gardien, souverain chef de la communauté ? N'était-ce que cela ? Le marquis de Lesque fit parler au gardien par l'archiduc lui-même. On comprend qu'une pareille recommandation aplanit toutes les difficultés. Le faux moine fut autorisé à aller prendre les eaux de forge, et le marquis de Lesque le chargea non point de remettre des lettres à Paris, mais d'écrire au destinataire de les venir prendre au rendez-vous qu'il lui donnerait. Rochefort partit. À peine en deçà de la frontière de France, il écrivit au cardinal de lui envoyer un homme sûr. Le messager ne se fit pas attendre. Rochefort lui remit le paquet qui lui avait été confié par le marquis de Lesque. Richelieu en prit connaissance, fit copier toutes les lettres qu'il contenait et retourna le paquet à Rochefort, qui le reçut à quelques lieues de forge. Remis en possession du paquet, Rochefort écrivit au destinataire de venir chercher les lettres. 5 ou 6 jours après, le destinataire arriva. C'était un avocat nommé Pierre qui logeait rue Perdue, près de la place Maubert. Celui-ci revint à Paris et descendit tout droit à l'hôtel de Chalet. Chalet reçut les lettres et y répondit. Que contenait cette réponse ? Nul ne le sut jamais que le cardinal et le roi. Au premier avis que le cardinal donna au roi de cette menée, le roi voulut faire arrêter Chalet et mettre en jugement la reine et le duc d'Anjou. Mais le cardinal supplia le roi d'attendre que le complot fût mûr. Que fallait-il au complot pour qu'il mûrît ? Il fallait une lettre du roi d'Espagne en réponse à une lettre écrite par Chalet. Cette lettre devait annoncer que Sa Majesté catholique était prête à conclure un traité avec la noblesse de France. Mais pendant que cette lettre viendrait, Chalet pouvait avoir des soupçons et fuir. Le roi commanda un voyage en Bretagne. La cour le suivit, Chalet suivit la cour. En sa qualité de maître de la garde-robe, il ne pouvait quitter le roi. Louis XIII, qui le voyait à son lever et à son coucher, était sûr de l'avoir sous la main lorsqu'il voudrait étendre la main sur lui. Enfin, la lettre de Philippe IV arriva. Le jour même qu'il la reçut, Chalet eut un long entretien avec la reine et avec monsieur. En outre, jusqu'à 2 heures du matin, il resta chez madame de Chevreuse. Le lendemain, il fut arrêté. Le complot était mûr. Chalet commençait cette liste de favoris que Louis XIII livra les uns après les autres à son ministre et son ministre au bourreau. Louis XIII avait fort aimé Chalet, mais un jour, quand sa qualité de maître de la garde-robe, Chalet passait la chemise du roi, le jeune homme s'amusa à contrefaire un des tics de Sa Majesté. Par malheur, Louis XIII passait sa chemise devant une glace. Il vit dans cette glace Chalet se moquant de lui. Plus d'une fois, Chalet avait raillé le roi sur sa froideur de tempérament et sur sa faiblesse physique. Ces plaisanteries, qui n'étaient que des griefs, devinrent des crimes lorsque Chalet fut accusé par le cardinal. Quelle était cette accusation, celle qui transpirait du moins ? D'avoir voulu, de connivence avec la reine et le duc d'Anjou, assassiner le roi. Comment cela ? Les uns disaient avec une chemise empoisonnée, les autres disaient en le frappant tout simplement d'un coup de poignard. Quelques-uns allaient même plus loin. Ils racontaient qu'un jour, ou plutôt une nuit, Chalet avait tiré les rideaux du lit pour accomplir cet assassinat, mais que, reculant devant la majesté royale, toute tempérée qu'elle était par le sommeil, le couteau lui était tombé des mains. Quant à cette dernière accusation, elle s'évanouit devant ce simple article du cérémonial de France. Le maître de la garde-robe ne demeure pas dans la chambre du roi quand le roi dort, et le valet de chambre ne quitte jamais la chambre quand le roi est au lit. Si l'action avait été vraie et que l'événement se fût passé comme on le racontait, il eût fallu que le valet de chambre eût été complice de Chalet ou que Chalet eût tenté l'assassinat pendant le sommeil du valet de chambre. Nous l'avons dit, le cardinal tenait son complot. Il le mena habilement. La reine tomba en disgrâce complète. Le duc d'Anjou, pour échapper à un jugement de complicité, fut contraint d'épouser mademoiselle de Montpensier. Enfin, Chalet fut condamné à être appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, à avoir la tête tranchée et le corps coupé en quatre quartiers. Quelques jours avant que cet arrêt fût rendu, la mère de Chalet était arrivée à Nantes. C'était une de ces femmes de grande race et de grand cœur, telles qu'on en voit de place en place, voilées et en deuil, sur les degrés de l'histoire. Comme la condamnation n'était point douteuse, elle fit tout ce qu'elle put pour parvenir jusqu'au roi. Mais les ordres étaient donnés, le roi n'était visible que pour le cardinal. L'arrêt prononcé, Madame de Chalet, la mère, fit de nouvelles démarches pour arriver jusqu'au roi. Tout fut inutile. Enfin, elle pria, supplia tant, qu'elle obtint que l'on remettrait au roi une lettre qu'elle avait apportée. Le roi reçut la lettre, la lut, et lui fit dire qu'il rendrait sa réponse dans la journée. Cette lettre, que je ne trouve dans aucune histoire, pas même dans l'histoire couronnée de M. Bazin, mérite d'être connue. Aussi, au risque de ne pas obtenir le prix de 10 000 francs pour être descendu à de pareils détails, la mettrons-nous sous les yeux du lecteur. Sire, j'avoue que qui vous offense mérite, avec les peines temporelles, celle de l'autre vie, puisque vous êtes l'image de Dieu. Mais lorsque Dieu promet pardon à ceux qui le demandent, ils doivent en user. Or, puisque les larmes changent les arrêts du ciel, les miennes, sire, n'auront-elles pas la puissance d'émouvoir votre pitié ? La justice est un moindre effet de la puissance des rois que la miséricorde. Le punir est moins louable que le pardonner. Combien de gens vivent au monde qui seraient sous terre avec infamie si votre majesté ne leur eût fait grâce ? Sire, vous êtes roi, père et maître de ce misérable prisonnier. Peut-il être plus méchant que vous n'êtes bon, plus coupable que vous n'êtes miséricordieux ? Ne serait-ce pas vous offenser que de ne point espérer en votre clémence ? Les meilleurs exemples pour les bons sont de la pitié. Les méchants deviennent plus fins et non pas meilleurs par les supplices d'autrui. Sire, je vous demande, les genoux en terre, la vie de mon fils, et de ne permettre point que celui que j'ai nourri pour votre service meure pour celui d'autrui. Que cet enfant, que j'ai si chèrement élevé, soit la désolation de ce peu de jours qui me reste, et enfin, que celui que j'ai mis au monde me mette au tombeau. Hélas, sire, que ne mourut-il en naissant, ou du coup qu'il reçut à Saint-Jean, ou à quelque autre des périls où il s'est trouvé pour votre service, tant à Montauban, Montpellier ou autre lieu, ou de la main même de celui qui nous a causé tant de déplaisirs. Ayez pitié de lui, sire. Son ingratitude passée rendra votre miséricorde d'autant plus recommandable. Je vous l'ai donné à 8 ans. Il était petit-fils du maréchal de Montluc et du président Jeannin par alliance. Les siens vous servent tous les jours, qui n'osent se jeter à vos pieds de peur de vous déplaire, ne laissant pas de demander, en toute humilité et révérence, les larmes à l'œil, avec moi, la vie de ce misérable, soit qu'il la doive achever dans une prison perpétuelle ou dans les armées étrangères en vous faisant service. Ainsi, votre majesté peut relever les siens de l'infamie et de la perte, satisfaire à sa justice et à sa clémence, nous obligeant de plus en plus à louer sa bénignité et à prier Dieu continuellement pour la santé et prospérité de sa royale personne, et moi particulièrement, qui suis votre très obéissante servante et sujette, de Montluc. Voulez-vous savoir comment Louis XIII, le roi sans cœur et sans entrailles, répondit à ce chef-d'œuvre d'éloquence maternelle ? Il est vrai que, selon toute probabilité, la réponse fut dictée par le cardinal. À Madame de Chalet, la mère. Dieu, qui n'a jamais failli, serait grandement mécompté si, établissant par ses décrets un séjour éternel de peine pour les coupables, il faisait grâce à tous ceux qui demandent pardon. Alors, les bons et les vertueux n'auraient pas plus d'avantage que les méchants, qui ne manquent jamais de larmes pour changer les arrêts du ciel. Je l'avoue, et cet aveu ferait que je vous pardonnerai très volontiers si, Dieu m'ayant fait cette grâce particulière de m'élire ici-bas sa vraie image, il n'eût encore fait celle qu'il s'est réservée à lui seul, de pouvoir connaître l'intérieur des hommes. Car alors, selon la vraie connaissance que je pourrais puiser de cette divine grâce, je lancerai et retirerai la foudre de mes châtiments sur la tête de votre fils, dès que j'aurai reconnu sa vraie repentance ou non, de laquelle, toutefois, bien que je ne puisse faire aucun jugement assuré, vous pourriez encore obtenir pardon de ma clémence s'il n'y avait que moi seul qui eusse intérêt dans cette offense. Car sachez que je ne suis point roi cruel et sévère, et que j'ai toujours les bras de ma miséricorde ouverts pour recevoir ceux qui, avec une vraie contrition de leur faute commise, m'en viennent humblement demander pardon. Mais quand je jette la vue sur tant de millions d'hommes qui s'en reposent sur ma diligence, dont je suis le fidèle pasteur, et que Dieu m'a donné en garde comme un bon père de famille, qui doit en avoir pareil soin et gouvernement qu'il a pour ses propres enfants, afin de lui en rendre compte après cette vie, et c'est en quoi je vous témoigne assez que la justice est un moindre effet de la puissance que la miséricorde et la compassion que j'ai de mes loyaux sujets et de mes fidèles serviteurs, lesquels, espérant tous en ma bonté, je veux les sauver tous du présent naufrage par le juste châtiment d'un seul. N'y ayant rien de plus certain que c'est quelquefois une grâce envers plusieurs que d'en bien châtier quelqu'un. Si je vous avoue que beaucoup de gens vivent encore qui seraient sous la terre avec infamie si je ne leur avais pardonné, aussi m'avouerez-vous que l'offense de ceux-là, n'étant pas à comparer au crime exécrable de votre fils, les a rendus dignes de ma clémence. Comme vous pouvez voir, en effet, la vérité que je vous dis par les exemples de quelques autres atteints et convaincus du même crime, qui, justement punis, pourrissent maintenant sous la terre, lesquels, s'ils eussent survécu à leurs entreprises impies et damnables, cette couronne qui ceint mon chef serait à présent un déplorable objet de misère à ceux-là même qui ont vu fleurir les sacrés lys au milieu des mouvements et des troubles. Et cette puissante monarchie, si bien et si heureusement gouvernée et conservée par les rois mes prédécesseurs, serait maintenant déchirée et mise en pièces par d'illégitimes usurpateurs? Ne m'estimez donc non plus cruel que l'habile chirurgien qui coupe quelquefois un membre gangrené et pourri pour garantir les autres parties du corps qui s'en allaient être la nourriture des vers sans ce pitoyable retranchement. Et assurez-vous que, s'il y a quelques méchants qui deviennent plus fins, aussi y en a-t-il beaucoup qui s'amendent par l'appréhension du supplice. Levez donc vos genoux de terre et ne me demandez plus la vie d'un qui la veut ôter à celui qui est, comme vous le dites vous-même, son bon père et maître, et à la France, qui est sa mère et sa nourrice. Cette considération, ma cousine, m'ôte maintenant la croyance que vous l'avez jamais nourrie et élevée pour mon service, puisque la nourriture que vous lui avez donnée produit des effets d'un naturel si méchant et si barbare que de vouloir commettre un si étrange parricide. J'aime donc bien mieux voir à présent la désolation du peu de jours qui vous restent à vivre que de récompenser indignement sa trahison et son infidélité par la ruine de ma personne et de tout mon peuple qui me rend une entière et fidèle obéissance. J'autorise bien les regrets que vous avez qu'il ne soit pas mort à Saint-Jean, Montauban ou autre lieu, qu'il tâchait de conserver, non pour son prince naturel, mais pour d'autres ennemis de mon bien. Non pour le repos de mon peuple, mais pour le troubler. Cependant, s'il est vrai qu'à quelque chose malheur est bon, je dois remercier le ciel de pouvoir garantir tout mon état à un si noble exemple, puisqu'il servira de miroir à ceux qui vivent aujourd'hui et à la postérité, pour apprendre comme il faut aimer et servir fidèlement son roi, et qu'il sera la crainte de plusieurs autres qui se rendraient plus hardis à commettre un semblable crime par l'impunité de celui-ci. C'est pourquoi vous implorez désormais en vain ma pitié, vu que j'en ai plus que je ne le saurais exprimer, et que ma volonté serait que cette offense ne touchât que moi seul. Car ainsi vous auriez bientôt obtenu le pardon que vous demandez. Mais vous savez que les rois étant personnes publiques, dont le repos de l'État dépend entièrement, ne doivent rien permettre qui puisse être reproché à leur mémoire, et qu'ils doivent être les vrais protecteurs de la justice. Je ne dois donc rien souffrir en cette qualité qui puisse m'être reprochée par mes fidèles sujets, et aussi je craindrais que Dieu, qui, régnant sur les rois comme les rois règnent sur les peuples, favorise toujours les bonnes et saintes actions, et punit rigoureusement les injustices, ne me fit un jour rendre compte, au péril de ma vie éternelle, d'avoir injustement donné la vie temporelle à celui qui ne peut espérer de ma miséricorde d'autres promesses que celles que je vous fais à tous deux, qu'en considération des larmes que vous versez devant moi, je changerai l'arrêt de mon conseil, adoucissant la rigueur du supplice. Comme aussi l'assistance que je vous promets de mes saintes prières, que j'enverrai au ciel, afin qu'il lui plaise d'être aussi pitoyable et miséricordieux envers son âme qu'il a été cruel et impitoyable envers son prince, et à vous qu'il vous donne la patience en votre affliction, telle que vous la désire votre bon roi, Louis. Restez le cardinal. Madame de Chalais n'y songea même pas. Elle préféra s'adresser au bourreau. Nous disons au bourreau, car il y en avait en ce moment deux à Nantes, l'un qui avait suivi le roi et que l'on appelait le bourreau de la cour, l'autre qui restait à Nantes et que l'on appelait le bourreau de la ville. La malheureuse mère réunit tout ce qu'elle avait d'or et de bijoux, attendit la nuit et se présenta tout à coup chez ces deux hommes. L'exécution ne devait avoir lieu que le lendemain. Qu'on nous permette d'emprunter les détails suivants à notre histoire de Louis XIV. Nous pouvons répondre que de nouvelles recherches ne nous apprendraient rien de nouveau. Chalais avait nié toutes les révélations faites au cardinal, disant qu'elles avaient été dictées par son éminence sous promesse de grâce. Enfin, il avait réclamé une confrontation avec Louvigny, son seul accusateur. C'était bien le moins qu'on lui accordât cela, et l'on n'avait pas cru pouvoir s'y refuser. À 7 heures, Louvigny fut donc conduit à la prison et mis en face de Chalais. Louvigny était pâle et tremblant. Chalais était ferme comme un homme qui sait n'avoir rien dit. Il adjura Louvigny, au nom du Dieu devant lequel lui, Chalais, allait paraître, de déclarer si jamais il lui avait fait la moindre confidence touchant l'assassinat du roi et le mariage de la reine avec le duc d'Anjou. Louvigny se troubla et avoua, malgré ses déclarations précédentes, qu'il ne tenait rien de la bouche de Chalais. Mais, demanda le garde des Sceaux, comment alors le complot est-il parvenu à votre connaissance ? Étant à la chasse, répondit Louvigny, j'ai entendu des gens vêtus de gris que je ne connaissais point, qui, derrière un buisson, disaient à quelques seigneurs de la cour ce que j'ai rapporté à monsieur le cardinal. Chalais sourit dédaigneusement et se retournant vers le garde des Sceaux, « Maintenant, monsieur, dit-il, je suis prêt à mourir. » Puis, à voix basse, « Ah, traître cardinal, murmura-t-il, c'est toi qui m'as mis où je suis. » En effet, l'heure du supplice approchait, mais une circonstance étrange faisait croire que l'exécution n'aurait pas lieu. Le bourreau de la cour et le bourreau de la ville avaient disparu tous les deux, et depuis le point du jour, on les cherchait vainement. La première idée fut que c'était une ruse employée par le cardinal pour accorder à Chalais un sursis pendant lequel on obtiendrait pour lui une commutation de peine. Mais bientôt le bruit se répandit qu'un nouveau bourreau était trouvé et que l'exécution serait retardée d'une heure ou deux, voilà tout. Ce nouveau bourreau était un soldat condamné à la potence et auquel on avait promis sa grâce s'il consentait à exécuter Chalais. Comme on le pense bien, si inexpérimenté qu'il fût à cette besogne, le soldat avait accepté. À 10 heures, tout fut donc prêt pour le supplice. Le greffier vint prévenir Chalais qu'il n'avait plus que quelques instants à vivre. C'était dur quand on était jeune, riche et beau, issu d'un des plus nobles sangs de France, de mourir pour une si pauvre intrigue et victime d'une pareille trahison. Aussi, à l'annonce de sa mort prochaine, Chalais eut-il un moment de désespoir. En effet, le malheureux jeune homme semblait abandonné de tout le monde. La reine, cruellement compromise elle-même, n'avait pu hasarder une seule démarche. Monsieur s'était retiré à Châteaubriant et ne donnait pas signe de vie. Madame de Chevreuse, après avoir fait tout ce que son esprit remuant lui avait inspiré, s'était réfugiée chez monsieur le prince de Guéménée, pour ne pas voir cet odieux spectacle de la mort de son amant. Chalais croyait donc n'avoir plus rien à attendre de personne au monde, lorsque tout à coup il vit apparaître sa mère, dont il ignorait la présence à Nantes, et qui, n'ayant pu sauver son fils, venait l'aider à mourir. Madame de Chalais, nous l'avons dit, était une de ces nobles natures, pleines à la fois de dévouement et de résignation. Elle avait fait tout ce qu'il était humainement possible de faire pour disputer son enfant à la mort. Il lui fallait maintenant l'accompagner à l'échafaud et le soutenir jusqu'au dernier moment. C'était dans ce but que, après avoir obtenu la permission d'accompagner le condamné, elle se présentait devant lui. Chalet se jeta dans les bras de sa mère et pleura abondamment. Mais, puisant une force virile dans cette force maternelle, il releva la tête, essuya ses yeux et dit le premier « Je suis prêt ». Il sortit de la prison. À la porte attendait le soldat à qui on avait donné pour remplir sa terrible mission la première épée venue. C'était celle d'un garde suisse. Le funèbre cortège s'avança vers la place publique où était dressé l'échafaud. Chalet marchait entre le prêtre et sa mère. On plaignait fort ce beau jeune homme, richement vêtu, qui allait être exécuté. Mais il y avait aussi bien des larmes pour cette noble veuve, encore en deuil de son mari, et qui accompagnait son fils unique à la mort. Arrivée au pied de l'échafaud, elle en monta les degrés avec lui. Chalet s'appuya sur son épaule. Le confesseur les suivit par derrière. Le soldat était plus pâle et plus tremblant que le condamné. Chalet embrassa une dernière fois sa mère et, s'agenouillant devant le billot, fit une courte prière. Sa mère s'agenouilla près de lui et unit ses prières aux siennes. Un instant après, Chalet se retourna du côté du soldat. « Frappe, dit-il, j'attends. » Le soldat, tremblant, leva son épée et frappa. Chalet poussa un gémissement, mais releva la tête. Il était seulement blessé à l'épaule. L'exécuteur inexpérimenté avait frappé trop bas. On le vit, tout couvert de sang, échanger quelques paroles avec le bourreau, tandis que sa mère se levait et venait l'embrasser. Puis il replaça sa tête sur le billot et le soldat frappa une seconde fois. Chalet poussa un second cri. Cette fois encore, il n'était que blessé. « Au diable cette épée !» dit le soldat. « Elle est trop légère, et si l'on ne me donne pas autre chose, je ne viendrai jamais à bout de la besogne. » Et il jeta l'épée loin de lui. Le patient se traîna sur ses genoux et alla poser sa tête toute sanglante et toute mutilée sur la poitrine de sa mère. On apporta au soldat la doloire d'un tonnelier. Mais ce n'était pas l'arme qui manquait à l'exécuteur, c'était le bras. Chalet reprit sa place. Les spectateurs de cette horrible scène comptèrent 32 coups. Au 20e, le condamné criait encore « Jésus, Maria !» Puis, lorsque tout fut fini, Madame de Chalet se redressa et, levant ses deux mains au ciel, « Merci, mon Dieu, dit-elle, je croyais n'être que la mère d'un condamné et je suis la mère d'un martyr. » Elle demanda les restes de son fils et on les lui accorda. Le cardinal était parfois plein de clémence. Madame de Chevreuse reçut l'ordre de demeurer au verger où elle était. Gaston apprit la mort de Chalet tandis qu'il était au jeu et continua sa partie. La reine fut sommée par le roi de descendre au conseil où on la fit asseoir sur un tabouret. Là, on lui montra la déposition de Louvigny et les aveux de Chalet. On lui reprocha d'avoir voulu assassiner le roi pour épouser monsieur. Jusque-là, la reine avait gardé le silence. Mais, à cette dernière accusation, elle se leva et se contenta de répondre avec l'un de ses dédaigneux sourires, si familiers à la belle Espagnole, « Je n'aurai point assez gagné au change !» Cette réponse acheva de lui aliéner l'esprit du roi, qui crut jusqu'à son dernier moment que Chalet, monsieur et la reine avaient véritablement conspiré sa mort. Louvigny ne porta pas loin son infâme accusation. Un an après, il fut tué en duel. Quant à Rochefort, il était audacieusement retourné à Bruxelles et, même après l'exécution de M. de Chalet, il demeura dans son couvent sans que personne sût la part qu'il avait prise à la mort de ce malheureux jeune homme. Mais un jour, en tournant l'angle d'une rue, il rencontra l'écuyer du comte de Chalet et n'eut que le temps d'abaisser son capuchon sur son visage. Cependant, malgré cette précaution, craignant d'avoir été reconnu, il s'échappa bientôt de la ville. Bien lui en prit, car derrière lui les portes se fermèrent. Puis des recherches furent faites et le couvent fut fouillé. Il était trop tard. Rochefort, redevenu cavalier, courait la poste sur la route de Paris. Il revint alors près de son éminence, s'applaudissant du succès de sa mission, que, dans ses idées à lui, il déclarait avoir honorablement rempli. « Ce que c'est que la conscience !»